l'âme et les principes des Versus Dii et se définit par elle, à savoir la puissance nutritive, sensible, pensant et le mouvement. L'âme est saisie comme principe de puissance et les puissances sont principes de l'opération vitale. Le principe est simple et indivisible, mais l'âme est composée dans sa manière d'exister. Cette composition de l'âme en différentes puissances regarde comment l'âme se réalise dans le corps. Nous voyons alors toute la complexité du vivant. Le vivant est un, car il y a en lui un principe d'unité, l'âme, et le vivant est complexe, de multiples puissances. Les puissances vont permettre de lier l'âme aux opérations vitales, cette particularité de l'âme est explicitée par Aristote avec du syllogisme ce par quoi dans la première partie du livre de l'âme est à la fois saisie comme le ce par quoi je disais, mais aussi comme le ce par quoi nous sentons, mangeons, etc. Elle est donc le principe pas vital, car elle est ce par quoi dans le sens fondamental du vivant. Mais elle est aussi principe d'autres principes, les puissances vitales, principe propre des opérations vitales. Les vivants restent dans une immanence. L'âme a été saisie comme principe immanent, mais c'est par les puissances que l'âme va communiquer avec l'extérieur et atteindre sa fin. On ne peut séparer donc l'âme des puissances, et c'est ce qu'Aristote va nous montrer dans cette troisième partie du livre 2, en la première fois dans une analyse très descriptive des différents vivants, puis dans un deuxième chapitre, par la recherche d'un tout phénomène qui nous oppose le monde des âmes. Alors, le premier point, le récit des critiques, vous est présenté par Jonathan.
Du côté des puissances. Il va rémunérer ces diverses puissances en les ordonnant, en commençant par la plus fondamentale, la puissance nutritive, et cela montre qu'il y a un qui ne peut y avoir en vivant que c'est bien la puissance nutritive. Le vivant est celui qui est capable de se nourrir. Aristote fait donc une hiérarchie des diverses puissances en partant de la plus imparfaite jusqu'à la plus parfaite. Nutritive, désirante, sensitive, locomotrice et intellective. Il y a 25 types de puissance. Cela s'appelle le bout économique. Ensuite, Aristote regarde les plantes. Il constate que les plantes n'ont qu'une seule puissance, la puissance nutritive. D'autres êtres qui ont en plus la puissance sensitive et du fait même ont nécessairement la puissance désirante. La relation entre la sensation et le désir est juste affirmée ici par Aristote. Il la précise par la suite en regardant le toucher. Aristote précise qu'à la différence des plantes qui n'ont que la puissance nutritive, les animaux ont aussi la puissance sensitive. Or, pour Aristote, s'il y a puissance sensitive, il y a nécessairement puissance désirante, car sont les désirs, l'appétit, le courage et la volonté. Autrement dit, le genre commun à ces trois causes de mouvement est le désir. L'appétit cause un mouvement vers le bien sensible, concupiscible. Le courage permet le mouvement vers le bien difficile, irascible. La volonté permet le mouvement vers un bien spirituel, volontaire. Aristote nous montre que ces trois sources de mouvement correspondent à une puissance unique désirante. On reprend ces difficultés qui voient le niveau de l'exercice à séparer le niveau appétitif selon les divers degrés de vie. Le ferment de l'animal au niveau des sens est le toucher. C'est donc à travers lui que je vais pouvoir connaître la puissance désirante de la manière la plus radicale. En effet, s'il y a toucher, il y a sensation. Et s'il y a sensation, il y a plaisir ou douleur dans cette sensation. Il y a une certaine connaissance interne du plaisir et de la douleur qui manifeste l'appétit. Le désir de l'agréable et qui correspond bien à la connaissance de l'agréable. Aristote montre bien qu'au niveau sensible, il n'a pas à proprement parler appétit pour chaque sensible, mais appétit pour le plaisir que la sensation procure. Puisque tout animal a le sens du toucher, il y a donc, selon Aristote, la sensation de l'aliment. C'est-à-dire que le toucher est le sens de l'aliment. En effet, la nourriture des animaux conserve des choses sèches ou humides, chaudes ou froides, et ses qualités sensibles sont perçues par le toucher. C'est-à-dire que ni le son, ni la couleur, ni l'odeur ne contribuent à l'alimentation, alors que la saveur liée au toucher participe à la sensation de l'aliment. La connaissance sensible du sec et du chaud correspond à l'appétit qui est la faim. Et à la connaissance du froid et de l'humide correspond à notre appétit qui est la soif. Mais il faut comprendre que même si Aristote ne le rappelle pas aussi, il y a entre la connaissance, par exemple, le sec et l'appétit, qui correspond à la faim, il y a le métaxé du plaisir. Autrement dit, entre la sensation et l'appétit, correspondant, il y a un plaisir ou douleur. Aristote termine en mentionnant la possibilité d'une puissance imaginative de l'animal, mais il ne développe pas ce point, de même pour la puissance de locomotion ou la puissance dialectique. Ce qui distinguera l'homme des animaux inférieurs, c'est justement la puissance dialectique et l'intellect. Simplement, on comprendra que la race est le propre de l'homme en tant qu'il est un esprit lié à la nature. Mais il peut faire en nous le monde, alors que les esprits séparés nous seront mis dans une capacité intuitive.
Similaire entre les différents âmes et entre les figures géométriques.
marche. L'âme végétative est le fondement du vivant et les autres degrés de vie s'articulent à partir de ce premier degré. De même, le triangle est le fondement de toute figure géométrique qui sont donc consécutives au triangle. Et de même qu'il n'y a pas de tikkoïnon à la figure géométrique, il n'y a pas de tikkoïnon à l'âme. Il y a là une limite de la définition de ce qui implique de l'antérieur et du postérieur. L'âme, comme la figure géométrique, n'est pas une connaissance générique, mais une connaissance analogique. L'analyse par genre et différences spécifiques ne permet pas de définir ce qui implique un âme. Dans l'éthique et le commun, Aristote a aussi souligné la limite de la définition du bien qui se dit de multiples manières. Je cite, « Il ne saurait être quelque chose de commun, de général et bien, car s'il l'était, il ne s'affirmerait pas de toutes les catégories, mais d'une seule. » De même dans le livre B3 de Métaphysique, dans les choses où il y a de l'antérieur et du postérieur, il n'est pas possible que ce qui est attribué à ces choses existe en dehors d'elles. Par exemple, si la diade est le premier des noms, il n'y aura pas un nombre en soi en dehors des espèces de nombres particuliers. Il n'y a pas aussi des noms en dehors des espèces. Remarquons qu'Aristote s'était déjà posé le problème au début du traité. On doit aussi examiner si l'âme est partageable ou sans partie, ou si toutes les âmes sont de même espèce ou s'il n'y en a rien. Et dans ce cas, si elles diffèrent entre elles par l'espèce ou par le genre. Dans ce cas, nous devons nous garder de passer sous silence la question de savoir si la définition de l'âme est une, comme celle de l'animal, ou si elle est différente pour chaque espèce d'âme, comme pour le cheval, le chien, l'homme, le lion. Et dans ce cas, l'animal en général, ou bien est rien, ou bien est postérieur. La même question se pose d'ailleurs pour tout autre prédicat commun que l'on affirmerait. En montrant qu'il n'y a pas de définition commune de l'âme, Aristote indique qu'il n'y a pas de connaissance univoque de l'âme. Il ne faut donc pas s'attacher à la définition commune, mais regarder l'espèce propre et indivisible à Tholon Aidos en genre et différence. La question n'est donc pas quelle est la notion commune de l'âme, mais quelle est l'âme à chaque espèce propre et indivisible, à savoir quelle est l'âme propre à la plante, à l'homme, à l'animal. Il ne faut pas s'attacher à l'unité de l'âme du point de vue de l'abstraction en cherchant ce qu'il y a de commun, mais revenir à la réalité de chaque être vivant et se demander quelle sorte d'âme lui appartient en propre. Ceci vient comme une confirmation du lien entre l'âme et ses puissances quand on peut saisir l'âme en dehors de ses puissances. Remarquons qu'Aristote ne regarde ici que le commun de la consécution des puissances entre elles en vue d'une saisie intelligible de la réalité. Il porte un regard critique sur un problème logique. Le contrat de cette consécution ne sera explicité qu'à la fin du traité. L'intention d'Aristote ne fait pas que montrer les limites de la définition d'un point de vue logique dans ce passage. En précisant que l'âme est une connaissance analogique, qu'elle est principe, il nous indique aussi les limites de la définition d'un principe philosophique. Il n'y a pas de saisie qualitative d'un principe, ici-bas, puisqu'il est lui-même fondement de l'intelligibilité. Dès le début du traité, Aristote s'était posé la question. La recherche doit-elle porter d'abord sur l'âme entière ou sur ses parties? Il s'agit en effet d'une option méthodologique importante sur le plan de la démarche en profonde. Aristote le dit un peu plus loin, il ne suffit pas de dire, semble-t-il, que la connaissance du TST soit utile à l'étude des causes des propriétés. Il faut ajouter qu'inversement, la connaissance des propriétés contribue pour une large part à celle du TST. En effet, sans la connaissance du TST, il n'y a pas lieu d'une nouvelle partie de la philosophie. D'autre part, seule une connaissance des parties ou propriétés des âmes, qui regarde plus directement les puissances de l'âme, permet un logos du mouvement et donc un logos commun de l'âme. Nous nous trouvons devant le paradoxe suivant. Premier point, le principe fonde la science. Deuxième point, il n'y a de science que de l'universel. Troisième point, le principe n'est pas une connaissance universelle. Or, seul le procédé inductif permet le dépassement de la démonstration rationnelle par la saisie du principe et résout ainsi le paradoxe. Le dire proprement dit s'arrête au principe, mais trouve son intelligibilité par le principe. Bon, je vais vous citer un texte qui exprime cette difficulté dans le Sémon analytique. Il y a un problème de traduction, je n'ai pas trouvé le texte en grec, et le traducteur parle d'intuition. Je ne sais pas si le terme exact, mais c'est pas intuition. À l'exception de l'intuition, aucun genre de connaissance n'est plus exact que la science, tandis que les principes sont plus connaissables que les démonstrations et que toute science s'accompagne de raisonnement. Il en résulte que des principes, il n'y aura pas science. Et puisque, à l'exception de l'intuition, aucun genre de connaissance ne peut être plus vrai que la science, c'est une intuition qui appréhendra les principes. Cela résulte encore du fait que le principe de la démonstration n'est pas lui-même une démonstration, ni par suite une science de science. Si donc nous ne possédons pas en dehors de la science aucun autre genre de connaissance vraie, il reste que c'est l'intuition qui sera principe de la science.
C'est la traduction de qui, ça?
C'est la traduction, je crois, de Rodin.
Oui.
Ce débat mériterait de plus amples développements, mais il risquerait de nous faire sortir du cadre de cette étude. Retenons seulement qu'il ne peut y avoir de définition générale de l'âme, mais qu'une connaissance de telle âme en particulier. Notons enfin que le principe implique un ordre et donc de l'antérieur et du postérieur. Nous retrouvons la difficulté soulevée par Aristote sur la recherche d'une notion commune de l'âme d'un point de vue plus strictement logique. Dans le dernier paragraphe de cette troisième partie du livre 2, Aristote explicite la consécution des puissances entre elles à partir d'exemples tirés des différentes espèces du vivant. Il constate que la faculté sensitive n'est jamais donnée sans la faculté nutritive, que le toucher est le fondement des autres sensations à cause de la nutrition et peut exister sans les autres sensations, que la sensation est nécessaire pour la locomotion, enfin, que le raisonnement et la pensée est la moindre des consécutions, elle nécessite toutes les autres puissances pour les posséder pleinement. Remarquons, en guise de conclusion, que cette explicitation des puissances de l'âme à partir des différents vivants n'est qu'une confirmation des affirmations d'Aristote et non pas le substrat de sa démonstration. C'est à partir de l'homme que le philosophe élabore les puissances de l'âme et non par l'expérimentation de la plante ou de l'animal. Ces derniers ne viennent que souligner, à titre d'exemple, les deux grandes affirmations de cette troisième partie du livre 2. Première affirmation, il y a des puissances dans l'âme et l'on ne peut les séparer de l'âme. Deuxième affirmation, l'âme est une connaissance analogique, ce qui nous montre la diversité des vivants. De la première affirmation, on voit les limites de cette recherche d'un logos commun de l'âme, et la deuxième est une réponse plus manifeste à la théorie platonicienne de l'âme. Il n'y a pas de définition générale, abstraite de l'âme. Peut-être que c'est équitatif, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait.
Oui, on peut dire qu'équitatif, c'est parce que c'est le totienaina, qui est à un niveau générique. On pourrait dire qu'il n'y a pas de connaissance générique du principe, c'est plus juste, vous voyez. Vous comprenez? Ou bien, pas tout à fait. qu'à des sens génériques. C'est les prédicables. C'est au fond, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comment notre connaissance se fait d'abord par le point de vue des prédicables, genre différents spécifiques qui aboutissent à la définition. Et puis qu'il y a un autre registre de connaissance, qui est le registre de connaissance qui se fait grâce aux intuitions, entre guillemets, c'est-à-dire grâce à l'induction. Je crois que c'est des pagogues. J'en suis pas sûr, je ne cite pas le type, mais je crois. Oui, oui. Ce qu'on redit, hein, c'est pour ça que je demandais la traite, tout. Et puis un autre type de connaissance qui se fait par l'induction, bon, c'est si les principes. Qui dit principe dit quelque chose qui est au-delà des prédicables. Mais au-delà de la différence par genre et différence spécifique. Alors, il ne peut pas y avoir une connaissance générique du principe, parce que le principe, par définition, est indivisible. Alors que le genre, par définition, est divisible. La connaissance générique, comme le souligne saint Thomas à la suite d'Aristote, se prend toujours ex parte materiae. C'est un tout potentiel, et donc divisible, et divisible grâce à la différence spécifique. Tandis que le principe est une connaissance indivisible, de quelque chose indivisible, donc au-delà du genre. Ça c'est capital de comprendre ça. C'est la différence entre une connaissance univoque et une connaissance analogique. La philosophie n'est pas au niveau des prédicables, mais est au niveau des principes. Comme la science, ou Aristote. Et c'est cette confusion constante qu'on va retrouver du reste dans la scolastique, qui fait que c'est quelquefois très difficile à comprendre. Parce que c'est pas dit avec assez de netteté. Alors que dans Aristote, c'est dit avec beaucoup de netteté. Et on comprend très bien qu'au plan théologique, puisqu'on assume les définitions aussi bien que les principes, au bout d'un certain temps, on ne voit plus très bien qu'est-ce qui est assumé. Oui. C'est pour ça qu'on aura une définition de l'âme. C'est contradictoire. Si l'âme est un principe, on ne peut pas définir l'âme. Essayer de préciser ce que c'est. Alors, parler de quiddité, c'est la question assez délicate au sens tout à fait propre. Les saisies quiditatives sont au niveau des prédicables. Est-ce que nous avons un prédicament ? Tandis que nous avions vu que la ratio. Ça ne va pas de ratio, on est nouveau des principes. Donc on est au-delà de l'acuité. Et on est à l'égard de la source de l'acuité, le principe. Et au fond, c'est tout l'enjeu là, c'est très critique, hein, ce chapitre 2, chapitre 3. C'est ça qui est difficile, parce qu'il y a constamment un aspect critique. Plus qu'un aspect logique, je dirais un aspect critique. Oui, pour nous, on peut dire que c'est un aspect critique. Pour bien comprendre le passage d'une connaissance générique à une connaissance proprement philosophique de l'âme. Et vous voyez l'attaque très profonde d'Aristote alors par rapport à Platon. C'est qu'au fond, Platon est resté dans une connaissance générique. Et donc, il n'a pas atteint le niveau philosophique. C'est très sévère comme critique.
C'est-à-dire que la ratio, le principe est la source de toute communauté infernale, qu'on pourrait dire que c'est en saisissant les puissances de l'âme qui sont des qualités,
qui sont au niveau des prédicables.
Qu'on saisirait juste sur la communauté.
Qui sont au niveau des prédicaments, je dis. On peut saisir la quiddité de quoi ?
Du vivant.
Oui, attention. Est-ce que vous cherchez à saisir la quiddité du vivant ? On peut philosophique. Je cherche à savoir qu'est-ce que c'est que le vivant. Et vous vous demandez si vous pouvez définir le vivant. Et pour saisir ce que c'est que le vivant, vous saisissez qu'il y a un principe de vie, qui est l'âme. Et en saisissant l'âme comme principe de vie, vous êtes au-delà de la connaissance quantitative. Vous voyez ? Donc, vous pouvez dire que vous ne pouvez pas définir ce que c'est qu'un vivant. C'est pour ça que dans Marois m'avait dit, le professeur Marois m'avait dit, on a une grande réunion dans l'Institut de la vie pour définir ce que c'est que le vivant. J'ai souri et j'ai dit, vous reviendrez pour me donner la définition du vivant. Alors il m'a dit, pourquoi vous souriez ? Je dis, vous n'arriverez jamais à définir le vivant. Quand même, on doit pouvoir définir ce vivant puisque c'est un objet de science. Je dis, oui, mais il échappe par tous les bouts. Vous n'arriverez jamais à définir ce que c'est que le vivant. Alors après la session, il est revenu triomphant, en me disant, vous aviez raison. On a conclu qu'on ne pouvait pas définir ce que c'était qu'un vivant. Le philosophe pourrait dire tout de suite. Parce que dans tout vivant, il y a une âme. Et que l'âme échappe à la connaissance proprement des prédicats, et donc de l'acuité et de la définition. Le vivant ne peut être atteint proprement que par le philosophe. Le savant donne des connaissances descriptives. Hein, il fait ça admirablement. Des connaissances descriptives du vivant, des différents degrés de vie. Il montre les connexions au niveau de l'exercice. Par là, il établit des lois. Mais s'il ne saisit pas ce qu'est le vivant, pour saisir ce que c'est que le vivant, il faut saisir l'âme. Et l'âme est au-delà de la connaissance quantitative. Vous voyez ? Je vous ai déjà dit que j'avais vu la déconfiture extraordinaire de cet Espagnol qui était docteur en biologie de Genève, très fier de l'être, et qui venait à Fribourg pour essayer de faire une philosophie. Il est arrivé juste au moment où on montrait qu'on ne peut connaître le corps que si on connaît l'âme. Alors, il était suffisamment intelligent pour comprendre que dans toutes ses études biologiques, il n'avait jamais parlé de l'âme. Et on essaie de connaître le corps vivant. Et donc on ne le connaissait pas. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est ce qui explique comment on peut faire des erreurs énormes de passer de l'animal à l'homme. On fait des expériences sur l'animal, puis après on les fait sur l'homme. On oublie que c'est totalement différent. Ce que vous avez souligné tout à l'heure. La vie de l'animal n'est pas la même que celle de l'homme. Et donc faire une expérience sur l'animal, ça ne veut pas dire du tout que ça va coller pour l'homme. Puisque c'est un autre vivant. C'est un autre principe de vie. Donc il y a une autre intelligibilité. Bien que descriptivement, il peut y avoir des choses très analogues, très semblables. Mais ça explique les limites de la médecine d'aujourd'hui, qui est basée sur la science biologique. Et la science biologique ne me dit pas ce que c'est que l'homme. Alors, on cachera ça en disant, ah, le moral joue un très grand rôle en médecine. Mais le moral, qu'est-ce que c'est que le moral ? C'est parce que tout simplement que l'homme est un vivant qui vit une vie spirituelle. Et que comme c'est un vivant qui vit une vie spirituelle, tout l'aspect biologique, organique, est modifié par cet aspect spirituel.
Comment ça se fait qu'au niveau scientifique, on ne s'en rend pas compte ?
Ah, et ça, c'est le positivisme. C'est parce que la plupart des savants, hélas, sont positivistes.
Parce qu'il y a quand même une quantité d'expérience qui, à un certain moment, fait... Éclater. Oui, il y a quelque chose de radicalement différent.
Exactement. Si on était parfaitement honnête, on devrait le reconnaître. Et c'est pour ça que les plus grands biologistes le reconnaissent. Mais quelqu'un comme le professeur Marois, que je connais bien, qui lui reconnaît que la biologie comme telle demande dépassé par une philosophie du vivant. Mais il est dans un milieu purement scientifique, et dans ce milieu purement scientifique, il sait qu'on ne l'accepte pas. Par des contacts personnels, on peut faire comprendre ça. Et c'est très intéressant, justement, d'être avec quelqu'un comme lui. Je prends Marois, parce que Marois n'est pas apologète. Le jeune est beaucoup plus apologète. Alors, c'est autre chose, vous voyez. Il projette sa vision de croyant sur sa science, ce qui est très mauvais. Ce qui irrite les savants. Et je comprends. Il faut entre la foi et la science, la philosophie. Vous voyez ? Autrement, vous tombez dans l'apologétique. Et l'apologétique, c'est de la rhétorique. C'est pas de la science. Il faut de l'apologétique au niveau rhétorique, comme il faut de la prédication. Dans la prédication, il y a toute une part rhétorique, c'est bien évident. Réveiller son public. Comme dans les cours, il y a une part rhétorique pour réveiller le public. Donc il y a des exemples. Et là, l'exemple, c'est ça fait partie de la rhétorique qui s'introduit là.
Oui. Qu'est-ce qui caractérise la science pour Aristote ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce qui caractérise la science ?
Alors, faisons attention que pour Aristote, le mot épistémé, science, égale philosophie.
C'est ce qu'il en dit. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire quelque chose de
sérieux ? Oui, c'est ça qui est... C'est toute l'histoire de l'épistémé, de la science, qu'il faudrait faire dans une vraie critique. Bon, voir la découverte de l'épistémé. Le livre de Ray, là-dessus, est intéressant. Vous savez, il y a, sur tout point de vue de l'histoire de la connaissance scientifique dans le monde grec, Aristote est le père, comme diront les positivistes. C'est le père de la science. Et quand les positivistes disent ça, c'est pas vrai du tout. Il est le père d'une philosophie scientifique. Parce que pour Platon, la philosophie n'est pas scientifique. Elle est au niveau de la participation. Donc elle reste descriptive. Le passage de Platon à Aristote, c'est le passage du descriptif au scientifique. Mais pour Aristote, le scientifique est philosophique. Et il n'y a de science qu'au niveau philosophique. Alors il faudra attendre l'apparition de la science moderne pour comprendre ce que c'est. Ce qu'on appelle aujourd'hui scientifique.
C'est mesurable, à partir de mesurables.
Oui, c'est plus complexe. Oui, Aristote reconnaît que les mathématiques sont de la science. Mais ne sont pas de la philosophie. C'est pour ça que quand j'ai dit science égale philosophie, c'est vrai. Parce que c'est dans la philosophie qu'on est en présence d'une science parfaite. Les mathématiques ne sont pas une science parfaite, c'est une science partielle. Mais c'est dans les mathématiques où on a la plus grande certitude. Vous voyez, c'est pour ça que Descartes, ne cherchant plus la vérité, mais la certitude, le modèle, ce sera les mathématiques. Et les mathématiques ont pris une telle importance dans notre culture moderne, et dans toute l'apparition de la science, à cause de la certitude, non pas à cause de la vérité.
La science regarde la forme ou regarde le terme. Quand vous dites que les mathématiques ne sont pas une science parfaite, parce que...
Pourquoi ? Parce qu'elle ne regarde pas toutes les causalités, dans la perspective d'Aristote. Une science parfaite doit regarder toutes les causalités. Donc doit pouvoir répondre à tous les pourquoi humains. Or, les mathématiques ne répondent pas à tous les pourquoi humains. Parce que les mathématiques, comme dit Aristote, est une science abstraite de l'homme. Si c'est une science abstraite de l'homme, ce n'est plus une véritable science. C'est très très curieux. Et ça, c'est très intéressant.
Ce qui caractérise la science, c'est pas la certitude.
C'est... Non, c'est pas la certitude, c'est la vérité.
Et la vérité inclut tous les
pourquoi. Et la vérité inclut tous les pourquoi. Et tous les comment. Les comment s'expliquant par les pourquoi. Et non pas le comment expliquant le pourquoi. Oui. Alors, dans le pourquoi dernier, il y a la finalité. Et dans la finalité, vous ne pouvez pas séparer la science de l'homme. Oui. C'est un psychanalyste canadien qui est mort maintenant. Il s'appelait Thompson. Qui était à l'ONU. Et il disait que c'est toujours très intéressant d'entendre les interrogations des différents peuples. Alors, tu sais, quand on est en face de l'Inde, on posait toujours le pourquoi de la finalité. Quand on était en face de l'Europe ou de l'Amérique, on posait toujours le comment. Et lui, ça l'intéressait beaucoup de voir ça, de noter ça, oui. Comme un peu ce qu'a fait Monseigneur Montdésert à Ars. Il avait le texte du pape. Et avant, puisqu'il était imprimé avant que le pape le dise, il avait son crayon. Et il notait chaque fois qu'il y avait des applaudissements. Il avait ensuite la théologie des applaudissements. Et il a vu que les applaudissements, c'était chaque fois que le Saint-Père soulignait quelque chose que les évêques ne soulignaient pas. Et il a dit. Et alors il a conclu. Mais nous devons réviser toute notre manière de regarder les choses. Le Père Montdésert est un philosophe, hein, faut pas l'oublier. Quand j'avais dialogué avec lui, c'était au début, hein, les évêques des alentours de Rimont avaient demandé qu'il y ait un petit dialogue et que l'abbé de Lérins m'avait dit il faut que leur fassiez un cours de philosophie pour leur montrer ce que vous enseignez parce qu'ils sont persuadés que vous enseignez la scolastique. Alors, le père abbé m'a dit bon, là, j'ai commencé par dire, mes chers, mon seigneur, mes évêques, je vais vous considérer comme mes étudiants. Je vais vous faire un cours de philosophie. Et ça a duré 1 heure et demie. Et alors, c'était très intéressant de parler rien sur Montdésert a dit. Au fond, nous sommes philosophes, nous devrions pouvoir nous entendre. Et la réaction qu'il a eue, vous voyez, c'est très sympathique et c'est très joli de la part d'un évêque de noter tous les applaudissements et en fils de faire la philosophie des applaudissements. Il a dit la théologie en réalité c'est la philosophie des applaudissements. Voir la sensibilité des jeunes qui applaudissaient chaque fois que le Saint-Père disait quelque chose qu'on avait enterré, qu'on essayait d'occulter.
On se base sur la sensibilité, voilà. C'est pas forcément juste.
Non, c'est rhétorique. Puisque c'est la persuasion. C'est pas nécessairement la vérité. Il faudrait, à partir de là, voir pourquoi. Parce qu'il a fait simplement le test. Mais c'est intéressant uniquement comme test. Bon, ça nous met loin de la chose, mais ce qu'il faut comprendre, que pour Aristote, la science, c'est une connaissance qui se fait par les causes. C'est pour ça que la connaissance scientifique est la seule connaissance parfaite. Parce qu'elle se fait par les causes. Découvrir la causalité d'un événement, d'un fait, c'est le connaître parfaitement. Parce que c'est remonter à la source. Alors on connaît par la cause matérielle, on connaît par la cause formelle, on connaît par la cause efficiente, on connaît par la cause finale, on connaît aussi par la cause exemplaire. Tandis que la connaissance du comment n'est pas scientifique. Elle reste descriptive, elle reste pratique. Oui.
Alors, quelle est la causalité, justement, dans les mathématiques ou les...
Causalité formelle. Dans la relation. Dans la logique.
Et au niveau des sciences modernes.
Ça reste la même chose.
Est-ce que vous...
La loi ne saisit jamais la finalité.
C'est ça.
La finalité est en dehors de la loi. Oui. La loi scientifique. Oui.
Est-ce que vous avez des sciences modernes, regardez, parmi la conscience.
Ah oui, oui, tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord. Il se donne des précisions. Elle donne des précisions sur la cause matérielle que le philosophe n'a pas. Et c'est en ce sens-là que le philosophe doit être attentif aux conclusions des savants pour voir si ce qu'il dit ne télescope pas la causalité matérielle. Oui. Donc, l'apport de la science par rapport à la philosophie est un apport du côté de la causalité matérielle, des dispositions qui obligent le philosophe de réviser ses inductions et ses conclusions scientifiques et ses conclusions philosophiques. Vous avez l'exemple très net de la quintessence, les corps célestes d'Aristote. Ça, c'est net. Mais même là, vous voyez, il faut être encore attentif. Parce que la quintessence est posée comment au plan philosophique? Elle est posée à partir de la lumière. Or, les lois scientifiques n'expliquent pas ce que c'est que la lumière. Donc on est en face d'un phénomène inexpliqué. Parce que mesurer la lumière, c'est pas dire ce que c'est que la lumière. Alors ça, c'est très curieux. L'autre jour, à Currières, les sœurs, puisque elles me demandent, vous savez, je ne sais jamais ce que je vais dire hein, quand je vais à Currières, parce que c'est elles qui ont leurs questions. Ils viennent dire, vous allez traiter de ça. Alors, elles m'ont demandé de leur traiter sur faire un cours sur la lumière. C'est tout à fait lumineux. Et quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça m'intéresse beaucoup de faire un cours sur la lumière. Alors j'aurais fait un petit cours sur la lumière en essayant de montrer qu'en effet la lumière c'est quelque chose de très très particulier et c'est peut-être un des aspects qu'on devrait reprendre très fort aujourd'hui pour montrer les rapports entre la philosophie et la science. La physique et la philosophie. Oui, quand je dis un peu en blaguant, mais en même temps en touchant quelque chose de très profond, que saint Thomas et Théard sont d'accord sur la même conclusion. C'est quand même assez étonnant de dire que la lumière fait l'unité de notre monde physique. Ça prouve que la lumière joue un rôle très, très fondamental dans notre monde. Et on sait très bien qu'une plante qui vit en dehors de la lumière... d'être cloîtré, ne pas avoir suffisamment de bain de lumière, ça vous fait végéter. Vous devenez des plantes qui manquent de lumière. Et c'est vrai, on ne regarde pas assez ce facteur-là. Oui.
En face d'un scientifique qui prétend connaître parfaitement la lumière, comment vous faites pour lui faire montrer qu'il ne la connaît pas réellement?
Mais je fais appel à ça, à un artiste. Je fais appel à un peintre. Un peintre a une connaissance de la lumière totalement différente du scientifique. Et je ne peux pas nier que le peintre a un sens de la lumière. Rembrandt. Il a un sens de la lumière étonnant. C'est pas scientifique, mais c'est évident que c'est pas scientifique, mais c'est humain. L'art est un antidote merveilleux par rapport à la science. Parce que l'art met en pleine lumière les sensibles propres. Et comme l'art met en pleine lumière les sensibles propres, il dit quelque chose que le savant ne dit pas. philosophe doit tenir compte de l'artiste et du savant. Et il aime de les mettre l'un en face de l'autre. Mais on en vient de plus en plus à ça. C'est ça qui est très curieux. Mais dans le festival de Fontevraud, j'avais dit à notre cher Dominique Levert, faites une table ronde en mettant des scientifiques et des artistes l'un en face de l'autre. Alors comme ça, on verra la nécessité de la pensée philosophique. Et c'est ce qu'on essaie de faire chaque année, sur tel ou tel sujet. Que est-il savant ? Et c'est le philosophe qui passera là. Oui, on doit se servir beaucoup de ça, parce que vous savez bien que le propre de la connaissance humaine, c'est toujours un peu de regarder les contraires. Nous couchons. Alors, on est artiste, on louche sur la science. On est savant, on louche sur l'art. Et le philosophe se sert de ça pour essayer de mieux montrer dans une topique philosophique, qu'est-ce que c'est que la lumière ? Le savant croit connaître ce que c'est que la lumière. Mais alors on dit aux savants, mais pas du tout, qu'est-ce que vous connaissez de la lumière ? Son support matériel. La seule chose qu'il connaît, c'est son support matériel. Puisque c'est la seule chose mesurable. Bah, et c'est évident que la lumière implique un support matériel. Ça ne peut pas être autrement. La lumière fait partie de notre monde physique. Et tout ce qui est dans notre monde physique implique un support matériel. Et donc tout ce qui est dans notre monde physique peut être mesuré. D'une manière ou d'une autre. On peut très bien ne pas encore arriver à le mesurer, mais ça implique une mensuration possible. Mais c'est uniquement le support matériel. La lumière comme telle, ce qu'est la lumière. Sa détermination, sa quidité, on ne peut pas la mesurer.
C'est pas quelque chose de semblable à la vie.
Mais oui, c'est quelque chose de semblable à la vie, c'est évident, mais c'est le reflet de la vie dans le monde physique. C'est pour ça que c'est si particulier ce que c'est que la lumière. Alors j'ai essayé, au petit sol de Currière, de montrer une démonstration de l'existence de Dieu par la lumière. Et ce serait très intéressant, ça, à creuser. Parce que je crois que pour nous, il y a une possibilité de montrer une démonstration d'existence de Dieu par la lumière. Parce qu'on passe, vous voyez, la lumière, c'était une question qui était posée. Est-ce que la lumière, c'est une analogie métaphorique ou une analogie propre ? Quand vous dites que l'intelligence est comme une lumière, ce que dit Aristote. Os, fons, le nous, il est comme la lumière. Alors, l'intelligence est lumière. Dieu est lumière. Est-ce une analogie propre ou une analogie métaphorique ? Très difficile à répondre. Quoi. Et peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Que c'est ni analogie propre, ni analogie métaphorique. C'est une analogie tout à fait spéciale à la lumière, irréductible aux autres analogies. Et ça, c'est possible. Parce que l'analogie, par définition, ne se met pas dans des cadres. Et tout de suite, nous nous remettons des cadres. Alors la lumière est là pour briser les cadres. Parce que dès qu'il y a une petite fissure, la lumière passe. C'est subtil, la lumière. Et c'est une telle subtilité que vous ne pouvez pas mettre la lumière dans une analogie métaphorique, une analogie propre. Et vous avez donc quelque chose de propre qui est la lumière. Et donc, la lumière doit être une voie spéciale pour remonter jusqu'à la source de toute lumière.
Mais est-ce que ce n'est pas une voie plus esthétique et affective ?
Non, la lumière, elle existe. Que votre sensibilité soit prise par la lumière, je suis tout à fait d'accord. L'artiste le montre bien. Que votre affectivité soit cellulaire ou clair de lune, la lumière du clair de lune et qui est votre affectivité. Normalement, des gens lunaires et des gens du soleil. C'est pour ça que Marie est du côté de la lune. N'est-ce pas? C'est les deux astres qui sont là pour éclairer le soleil et la lune. C'est pas pour rien que c'est dit comme ça. Et donc il y a une lumière affective et une lumière esthétique. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème se pose au plan philosophique. Pourquoi dites-vous que l'intelligence est lumière? Il y a un fondement réel. La lumière n'est pas purement subjective. C'est pas purement subjectif, il y a un fondement réel. L'arc-en-ciel. Ça joue un rôle extraordinaire, l'arc-en-ciel, dans toutes les traditions religieuses. L'arc-en-ciel qui est au-dessus du trône de Dieu. L'arc-en-ciel qui est le signe de la paix. L'arc-en-ciel qui, alors vous expliquez l'arc-en-ciel scientifiquement, très très bien. C'est une explication. Pas la cause matérielle. Pas plus. Et les attitudes religieuses prennent la finalité de l'arc-en-ciel, signe de paix. L'orage est terminé, il y a l'arc-en-ciel, le soleil a réapparaît. Oui.
Quand on parle de cause matérielle au niveau des sciences, est-ce qu'il n'y a pas une équivocité quand même? Parce que le scientifique mesure le réel, il en fait un modèle,
aux exemplaires, oui.
Mais est-ce qu'il atteint la matière?
Non, et ça se ramène à la cause matérielle, c'est ce qu'il dit, au support, voyez, ce qui est mesurable. C'est à la cause de ça, c'est pas la cause matérielle, je dirais jamais qu'il atteint la cause matérielle. Il atteint les dispositions. Si on voulait parler de façon tout à fait propre, il atteint les dispositions. La science regarde les dispositions. Les dispositions qui sont du côté de la matière. Et qui par le fait même sont mesurables. Et puis étudier le plus et le moins et arriver à un archétype, à un modèle. Et le modèle, vous voyez, c'est la causalité exemplaire prise d'un prototype. C'est ça le modèle. Mais cette cause matérielle, cette cause formelle n'est pas la vraie cause formelle. C'est du côté de la disposition. Oui, alors on est très loin du sujet.
Justement, pourquoi pour dire qu'il n'y a pas de notion commune de l'âme, Aristote utilise-t-il la comparaison avec les formes mathématiques?
Oui.
Qu'est-ce qui lui permet de faire cette analyse?
Parce que dans les formes mathématiques, c'est ce qu'il dira toujours, ça c'est un vieux truc pythagoricien. C'est une vieille notion avec un Aristote est sensible. Les espèces sont comme les nombres. Mais c'est redit constamment, ça. Les espèces sont comme les nombres. Le nombre, si vous ajoutez 1 au nombre, c'est plus le même nombre. Vous dites 2 plus 1 égale 3. 3 est spécifiquement distinct de 2. C'est un nombre autre. Eh bien, et il y a un son. C'est très mystérieux, les nombres. Alors, comme les nombres sont quelque chose de plus connaissable pour nous, ça sert d'exemple pour comprendre que les espèces sont parfaitement déterminées et que je ne peux pas passer de l'une à l'autre. Il y a un saut. Parce que l'espèce dit quelque chose de parfaitement déterminé en logique. L'espèce, c'est ce qui est défini, ce qui est capable d'être défini, comme le nombre.
Qu'est-ce qui permet qu'il y ait ce flou qui se soit introduit dans l'espèce?
Dans l'espèce, on a confondu logique et philosophie de la nature. Vous devriez parler non pas de l'évolution d'espèce, c'est contradictoire. Interminis. Vous devriez parler de l'évolution de la nature, du vivant. Alors là, c'est très bien. Le vivant comme tel évolue, s'adapte. Alors l'évolution va plus ou moins loin. Mais c'est Darwin qui a dit ça, faut pas l'oublier. Et cette expression, tout le monde s'est jeté dessus, ça va rester contradictoire. C'est comme si vous parliez de l'évolution des nombres. Mais des enfants dans un casier, chauffez-le, ça va devenir 1000. Les nombres sont parfaitement déterminés comme les espèces. Qui dit espèce dit quelque chose de parfaitement déterminé. Donc ne parlez pas de l'évolution de l'espèce. L'espèce est un terme logique. Donc c'est au-delà de la vie, c'est en dehors de la vie. Vous ne pouvez pas dire que la logique est vivante, quoi. C'est un être de raison. Parce que Darwin n'est pas philosophe, et puis c'est le moment où la logique a tout pris. Alors on a appelé l'espèce, alors on essaie de comprendre très bien espèce, l'évolution de l'espèce, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends espèce au sens fort, donc si vous dites nature, ah oui, vous êtes en face d'une réalité, la nature vivante. Et le propre de la nature, c'est justement d'impliquer une certaine évolution comme le vivant. La nature, c'est Fouine, Fousis. Fouine, c'est quelque chose qui croit. La nature implique une croissance. Donc la nature implique des modifications, des adaptations. Un vivant s'adapte. Et s'adapte merveilleusement. Et donc il évolue. Jusqu'où va-t-il évoluer? Ça c'est une autre question. Mais il évolue. C'est le propre de la nature d'évoluer, de la nature du vivant. Oui, alors, oui, la petite confusion entre la philosophie et la logique qui s'est faite avec Darwin, qu'on a accepté tout bonnement, nous conduit à une impasse. Et on verra l'impasse. Ne parlons pas d'évolution d'espèce, parlons d'évolution de nature vivante, d'être vivant.
Justement à la conséquence de cette confusion.
Mais c'est parce que alors, dès qu'il y a une confusion, vous ne regardez plus la réalité, mais les confusions peuvent être assumées par les idéologies. Et on est tombé dans une idéologie de l'évolution. C'est une idéologie de l'évolution. Oui.
L'idéologie, là, c'est un relativisme.
Qu'est-ce qu'il y a?
L'idéologie, qui veut dire, c'est le relativisme.
C'est le relativisme le plus absolu, c'est l'adaptation le plus absolu. Et c'est le relativisme le plus absolu. Donc il y a un positivisme derrière, mais il y a une forme de positivisme particulière de l'évolution. Regardez, William Huxley, lui, c'est l'idéologie de l'évolution la plus parfaite qui soit, en disant, le vivant nécessairement évolue. Si Dieu existe, il n'évolue pas, donc il n'existe pas. Vous faites de l'évolution la quiddité, l'intelligibilité de la vie, alors que vous êtes parti au point de départ du vivant qui évolue comme une propriété, et la propriété est devenue la définition même du vivant. Et ça existe dans tout le développement de toutes les idéologies. C'est comme ça. C'est pour ça que les idéologies impliquent toujours une contradiction. Tout le temps. Mais on la voit plus. Parce qu'on n'en cherche pas tous aînés.
Oui. Justement, une difficulté de la définition pour Platon du monde.
Oui.
Il ne définit pas le monde en soi.
Non.
Il définit le diable et puis après.
Oui. Oui.
C'est pas très.
Il n'y a pas de logique chez Platon, hein. Il n'y a que la dialectique. La distinction entre dialectique et logique se fait avec Aristote. Vous voyez, Platon reste dans une confusion là. Si on est aristotélicien, ne dites pas ça à un platoniste. À un platonien, dites que Platon décrit admirablement. Que c'est la beauté qui décrit admirablement. C'est un artiste, Platon. En tant qu'artiste, c'est très bien. Si j'analyse au plan philosophique, je dois faire la distinction entre l'aspect logique et l'aspect réel. Puisque l'aspect logique regarde l'être de raison. Mais c'est là où il faut faire toujours grande attention. Nous raisonnons à l'intérieur d'une certaine philosophie réaliste. Mais dès que nous sortons, surtout, n'appliquons pas ça à l'extérieur. Soyons suffisamment intelligents pour prendre les gens là où ils sont. C'est-à-dire essayons de mettre, il suffit d'un peu rhéteur, tout simplement. Et un peu rhéteur, c'est tout simplement regarder la description. Autrement, vous arrivez avec vous. énorme. Et là, vous mettez tout le monde en boule.
Et justement, à l'extérieur, est-ce qu'on peut dire que Platon parle de contemplation ?
Le mot théoria est chez Platon. Platon parle de la contemplation. De l'île du Père Festu. Sur la contemplation. Je peux vous donner quelque chose de très très fort.
Est-ce qu'il ne réduise pas la contemplation à l'intuition dans ces cas-là ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce qu'il ne réduise pas la contemplation à l'intuition ?
Oui, mais ça c'est autre chose. Enfin, le mot y est. Si le mot y est, nous devons donc parler de la contemplation de Platon. Et nous pouvons ensuite dire, mais il y a une contemplation telle qu'Aristote l'a donnée qui est différente. Il y a une contemplation telle que les mystiques ont donnée qui est différente. Alors vous voyez, l'analogie du mot contemplation, les significations sont différentes. Parce qu'il est évident que la contemplation telle que Platon la donne n'est pas celle qu'Aristote donne en éthique et n'est pas celle que saint Thomas reprend. Oui. Mais Platon parle de contemplation et donc nous avons parfaitement le droit d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la contemplation chez Platon. Antécédents et conséquents pour établir des lois. Tandis qu'au contraire, Aristote analyse les états affectifs à partir de la connaissance et fait des analogies entre l'analogie des connaissances et l'état affectif. Oui, c'est toujours ce qu'il fait. Parce que l'affectivité est beaucoup moins lumineuse que la connaissance. Ça, en fait, l'aspect subjectif est beaucoup plus fort. Et donc, on connaîtra les différents degrés de vie par la connaissance et pas par l'affectivité. Et c'est par la connaissance qu'on essaiera de comprendre les différentes analyses de l'affectivité. C'est-à-dire le contenu objectif de toute affectivité. Il y a un contenu objectif dans toute affectivité. Mais l'aspect imaginatif et subjectif est très fort. Ça, c'est sûr. Mais dans l'angoisse, par exemple. Quelqu'un, dans l'angoisse, c'est la subjectivité transcendantale qui prend tout. Puisqu'il n'y a plus d'objet. On a peur du gros chien. On n'a pas l'angoisse du gros chien. On est dans un état angoissé. Et il n'y a plus de détermination. Oui. Donc c'est la perte de l'objet. Complète. Alors je dirais, mais ça c'est, je comprends très bien. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez analyser certaines douleurs. Quand vous dites que vous avez mal aux dents, ça arrive quand même. Là, vous allez me dire, oh, purement imaginatif. Quand quelqu'un vous dit qu'il a très mal aux dents, je vous jure, votre imagination. Vous avez une imagination folle, vous croyez aujourd'hui avoir mal aux dents. Mais non, pensez à autre chose et vous n'aurez plus mal aux dents. Oui, ça marche, c'est évident que ça marche. C'est ce qu'on disait de Saint Thomas, vous savez bien. Quand il allait se faire arracher dedans, il se mettait dans un état de méditation tel qu'il ne sentait plus la douleur. Alors ça c'est quoi? C'est un phénomène de conscience, tout simplement. C'est que pour qu'il y ait la douleur, il faut qu'il y ait la conscience. Voilà, c'est tous les procédés d'aujourd'hui qui essaient de faire disparaître la douleur. Vous savez bien. Pour essayer.
En se coupant de la conscience.
En se coupant de la conscience, ou en faisant des transferts de conscience. Oui. Alors, c'est très délicat, c'est très intéressant à étudier ça au plan philosophique. Jusqu'où peut-on aller? Parce qu'alors, il y a une autre médecine qui veut au contraire qu'on soit parfaitement conscient, qui laisse la douleur, qui augmente la conscience. C'est très très curieux de voir, parce qu'il y en a deux contraires très nets.
Oui. Quel est le critère selon pour dire d'un état jusqu'au bout de ces expériences-là?
C'est l'humain. Si vous supprimez la responsabilité humaine et morale, vous n'êtes plus dans l'humain. C'est la fameuse petite distinction que faisaient les anciens Saint Thomas et Aristote. Autre chose, un acte d'homme, autre chose, un acte humain. Et on revient tout le temps à cette distinction. L'acte d'homme, fricare et barbam. C'est des bonnes moustaches que vous. Dites-nous ça, fricare et barbam. Alors ça, c'est l'acte d'homme. Et au contraire, l'acte humain, c'est un acte qui est volontaire.
Comme si la personne reste consciente, même si on supprime.
Ah, si la personne aurait conscience d'elle-même, vous pouvez supprimer localement une douleur. Et ça peut être très bon pour lui permettre d'être plus consciente de sa propre finalité. Oui. Si vous supprimez complètement la conscience humaine, alors là, c'est dangereux. C'est pour ça que c'est très très délicat ces choses-là. Mais c'est très intéressant parce que ça oblige d'analyser beaucoup plus profondément ce que c'est que la douleur. Et comment une douleur, peut-être une douleur de vache, ou une douleur d'homme, ou une douleur humaine.
Pour revenir à la connaissance des causes, qu'est-ce qui n'est pas respecté dans une connaissance des causes pour un vivant homme et un vivant animal? Si on applique le même système de connaissances par les causes à l'homme et à l'animal,
C'est-à-dire qu'on met en nom, parce qu'elle faisait attention. L'homme est le seul qui peut connaître de l'intérieur l'exercice de sa vie. C'est pour ça qu'il y en a quelque chose de très particulier dans le Dianima. Car il ne s'en a pas mis tout à fait en lumière, mais que nous pouvons expliciter, nous. Venez, je vous avais déjà dit cette comparaison, et c'est toujours très important d'essayer de comparer les connaissances biologiques d'aujourd'hui et la philosophie du vivant. Les connaissances biologiques d'aujourd'hui sont des connaissances qui se font, comme on dit, dans une objectivité pure, alors que la philosophie, oh là, c'est l'objectivité de la philosophie, puisque ça se fait de l'intérieur, c'est plus très objectif. Alors qu'au contraire, le philosophe sait qu'il est dans une situation tout à fait privilégiée pour comprendre ce que c'est que le vivant. C'est sa propre vie. Mais je ne connais pas du tout, ou je connais analogiquement et d'une façon très confuse, ce que c'est que la vie du chien. Je connais de façon, et la vie de l'escargot. Pas commode du tout. Tandis que quand vous connaissez votre vie, vous la connaissez de l'intérieur. Et vous connaissez la vie du voisin par votre propre expérience. Mais faites toujours quand même une petite analogie, une petite projection. Parce que vous ne connaissez jamais totalement la vie du voisin. Vous croyez la connaître. Parce que vous savez que telle réaction de son côté doit se traduire de cette manière-là. Et puis vous pouvez l'écouter. Il y a des gens qui savent expliquer leur douleur et des gens qui ne savent pas expliquer leur douleur. Il y a des gens qui en face de la douleur disent oh, ils sont perdus complètement. Puis des gens qui analysent et qui arrivent très bien à préciser. Et donc vous pouvez préciser la douleur et vous pouvez essayer de saisir des centres objectifs de douleur. Et c'est par là analyser. Alors là, il y a une connaissance analogique de l'homme. Mais pour l'animal, c'est beaucoup plus difficile. Parce que vous saisissez toujours de l'extérieur. Et comme l'animal ne parle pas, c'est beaucoup plus difficile. Mandez une vache, hein, ma petite cocotte. Hein. Alors, hein, est-ce que tu as mal à l'estomac aujourd'hui hein? Elle reste même beuglée. Vous y voyez, avec moi, vous voyez. C'est vrai, vous ne pouvez pas l'interroger. Je tâtais le pot en lui disant, ça va vite aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'il y a quelle belle émotion que tu as eue. Et c'est curieux le besoin, les paysans, quand ils vivent, de parler à leurs bêtes, de les nommer. Vous voyez, il y a un certain contact qui existe, alors qu'un étranger, hein. Tandis que lui, il connaît, hein, il connaît celle-là. Le berger connaît ses petits moutons. Et quelqu'un qui vit avec ses vaches, il les connaît, il les appelle chacune par leur nom, a donné un nom particulier. Et il y a vraiment une certaine connaissance, mais une connaissance qui reste très très commune, très lointaine, mais quand même qui est intéressante. C'est quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? On dira que c'est l'estimative et la cogitative. C'est le dialogue. De l'estimative serait très beau, ça, un très beau guignol à faire. N'est-ce pas? Le dialogue de l'estimative et de la cogitative. L'animal a l'estimative et l'homme la cogitative. Ce sont des connaissances sensibles qui impliquent un certain raisonnement. Il y a un certain raisonnement dans l'animal. On ne peut pas nier chez le singe. Et là, on dit parce qu'il y a un raisonnement, il y a donc l'intelligence, mais pas du tout, il y a un raisonnement, et donc il y a tout simplement ce que les anciens avaient dit. Il y a l'estimatif chez les animaux. Un singe a une estimative. Après certaines expériences, le singe sait qu'il faut prendre un bout de bois assez long pour atteindre quelque chose. Alors, il fait un raisonnement pratique. Mais c'est pas parce qu'il fait ce raisonnement pratique qu'il a l'intelligence. Vous voyez une différence entre la faculté dianoïtique et le nous. La faculté dianoïtique, elle existe dès qu'il y a connaissance sensible. Il y a un certain raisonnement sensible.
Même chez l'animal.
Même chez l'animal, je comprends. Venez, regardez c'est ce serait très simple. Les fils électriques pour la vache. Vous éduquez les animaux. Tu vois, une certaine éducation, une certaine... Vous arrivez petit à petit à les dresser. Or, vous ne pourriez pas les dresser s'il n'y avait pas un certain raisonnement.
Ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est qu'il y a des tas de gens qui prennent ça pour l'intelligence,
et oui.
le dressage pour l'éducation.
Exactement. Ils font un chemin.
C'est
ce que Monod disait ouvertement dans les rencontres internationales il y a quelques années à Genève. Il disait, l'éducation, c'est comme le dressage du champ. On dresse l'enfant à être propre, on dresse l'animal à être propre. C'est pas autre chose que ça. Vous voyez, dressage et éducation. Mais le dressage implique des connexions. Et donc, un raisonnement sensible et pratique. Et comme dans le monde d'aujourd'hui, l'intelligence, c'est le raisonnement et la logique. On dira que le point de vue de l'ordinateur, c'est une intelligence. On dira que l'animal, c'est... Mais non, c'est une vieille distinction qui existe depuis très longtemps. Le raisonnement, c'est pas l'intelligence. Ah. Ça se comprend de l'intérieur. L'intelligence, vous estimez, vous discernez. Quand vous posez le jugement d'existence, c'est pas du raisonnement. C'est immédiat. C'est la saisie des principes. Votre intelligence n'est intelligence parfaite que quand vous saisissez un principe. Et quand vous posez un jugement d'existence, là, il n'y a pas de raisonnement. Vous voyez ? Et là, vous avez l'évaluation, vous jugez. Mais vous voyez, déjà dans l'évaluation, il y a encore un raisonnement, une certaine délibération. Mais dans la saisie d'un principe, là, vous êtes au-delà.
Vous n'avez pas le jugement d'existence, parce que les autres jugements peuvent impliquer un raisonnement tout simple. Qui dit cette table est marron, je peux avoir fait une...
Ah oui, marron, oui, c'est évident, parce que vous voyez tous les marrons. Tandis que le jugement d'existence se situe nulle part, c'est direct. C'est pour ça que la philosophie repose sur le jugement d'existence. Elle ne repose pas sur la vache rousse. Ou la vache qui rit.
Pour revenir à l'exposé, qu'apporte de plus aux trois degrés de vie, à la distinction des trois degrés de vie, la distinction des cinq puissances de l'âme? Ça se recoupe un peu de...
Ça se recoupe, c'est pas au même niveau. Parce que du côté des degrés de vie, vous êtes du côté des finalités. Tandis que du côté des cinq, vous êtes au côté des modalités d'espérance, d'opération. Vous voyez? Les facultés, c'est ça qui est important à saisir. Les facultés, les dunamis, les dunamein, se posent à partir des diverses opérations et des modalités diverses de l'opération. Irréductibles l'une par rapport à l'autre. Vous voyez ? Tandis que les degrés de vie se prêtent du côté des finalités. Ou des non-finalités. Parce qu'on dirait que la vie sensible n'a pas de finalité en elle-même. Donc il y a une non-finalité. La vie végétative a sa finalité, la vie intellectuelle a sa finalité, et la vie passionnelle n'a pas de finalité. Elle est anarchique. Oh, c'est l'homme. C'est l'homme, mais la comparaison, comme toujours, vous voyez, comme j'ai une connaissance très fragile et que je louche tout le temps, je dois regarder la comparaison. Je vois qu'un, la plante vit, l'animal vit, puis je vis. Et j'essaie de comprendre la différence. Alors, je peux faire des comparaisons, mais je pourrais, uniquement par la réflexion sur moi, comprendre la différence qui existe entre ma vie biologique, ma vie psychique et ma vie intellectuelle.
La confusion du chapitre 3, je vois tout à fait l'intérêt du chapitre 3.
temps, on pose l'âme en premier lieu. Et on découvre l'âme. Aristote dit à partir de nos facultés, en réalité à partir de nos opérations vitales. Et moi je préciserai ça aujourd'hui, à partir de, parce que la dynamis, la puissance, n'est connaissable qu'à partir de l'acte. Donc dire qu'on connaît l'âme à partir de la dynamis, c'est pas tout à fait précis. Vous voyez ? Parce qu'en réalité, on ne peut poser la dynamis qu'à partir de l'âme. Je crois qu'il faut comprendre ça de cette façon. Et c'est là où il y aurait à préciser, je voulais venir à la fin là-dessus. Et vous avez raison de poser la question. Nous avons opération vitale. Nos opérations vitales. Nous avons les puissances. Ce que la scolastique a appelé les facultés. Alors aujourd'hui, il ne faut plus dire faculté. Il faut dire puissance. Tu restes à traduit beaucoup mieux tout dynamis. Et puis l'âme. Alors l'âme, principe radical. Les puissances, principe immédiat. Oui, les cisterciens font cette très bonne distinction. Il y a le père immédiat, il y a le père lointain. Toutes les abbayes cisterciennes, c'est comme ça. C'est le trappistine, c'est le père immédiat, le père lointain. Eh bien, la puissance, c'est le principe immédiat de l'opération vitale. Et l'âme, l'opération, le principe radical. Or, vous comprenez bien que pour saisir ce principe intermédiaire, il faut découvrir ceci, au sens fort, ce sens que je dirais, je découvre l'âme par les opérations vitales, qui, elles, impliquent les puissances. Donc, par les opérations vitales, je découvre l'âme. Ayant découvert l'âme et en revenant aux opérations vitales, je vois qu'il faut, étant donné la très grande diversité des opérations vitales, il faut poser des principes intermédiaires. La dynamis, la puissance, c'est un principe intermédiaire. C'est pour ça que la dynamis ne peut se comprendre que par rapport à l'âme, et l'âme ne peut se comprendre que par rapport à la dynamis. Mais en réalité, si je parlais un langage très précis, et je crois que là on peut préciser la pensée d'Aristote, je dirais l'âme ne se comprend qu'à partir de nos opérations vitales. La dynamis ne se comprend qu'à partir de l'âme. Et donc, ce n'est pas tout à fait juste de dire que l'âme se comprend à partir des dynamis. Vous voyez ? C'est juste dans la mesure où opération vitale implique dynamis. Mais en réalité, c'est les opérations vitales qu'il faut comprendre ce que c'est que l'âme. Oui, c'est pour ça que je mettrai le lien direct de l'opération vitale, l'âme, et de l'âme, je remonte au dynamis. Et je montre qu'il y a une distinction réelle entre les puissances et l'âme, et une distinction réelle entre l'âme et les opérations vitales.
On a l'impression qu'on peut passer directement de l'opération vitale à la puissance.
Non, on peut. Mais ça ne va pas très bien. Vous voyez, on peut, en ce sens que je peux réfléchir sur ma vision. En analysant ma vision, je dis, ma vision, c'est une opération vitale, première chose. Je vois, comme je pense, opération vitale. Ça me qualifie, l'opération vitale qualifie le vivant. Et en réfléchissant, je réfléchis sur ma pensée. Qu'est-ce que c'est que ma pensée ? Ma pensée, ce n'est pas mon imagination, ce n'est pas ma sensation, ce n'est pas ma nutrition. Quand je mange, je ne pense pas nécessairement. Et quand c'est très très bon, je ne pense plus du tout. C'est pour ça que dans la vie religieuse, c'est jamais bon pour qu'on puisse penser. On est c'est. Parce que quand c'est trop bon, on ne pense plus. On reste dans l'art culinaire, n'est-ce pas ? Alors on ne pense plus, mais c'est tellement... C'est. Les animaux, c'est extraordinaire de voir ça. Cette expérience que j'avais faite en Afrique, ça m'avait... charognards en Afrique, qui sont des animaux terribles, méchants, méchants. Et quand ils sont auprès des pêcheurs et des femmes des pêcheurs qui viennent dépecer les poissons, qui enlèvent les entrailles des poissons le plus vite possible, parce qu'il fait chaud, alors on enlève, puis on met tout ça dans un bac, on voit les charognards qui viennent là et qui viennent manger tout ça. Et à ce moment-là, vous pouvez caresser, je l'ai fait, vous pouvez caresser leur tête. Tellement ils sont pris par leur concupiscence. Alors ils viennent familiers, vous pouvez les tuer, ça n'a pas d'importance. On aime mieux manger que de vivre. C'est tellement bon. Mais c'est un destin des poissons. Ça, c'est c'est extraordinaire de voir ça. Un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. C'est extraordinaire. C'est une puissance de c'est, ça explique du reste l'irascible quand ils n'ont pas à manger. Quand on est ici, il est très développé. L'irascible se développe énormément quand on n'a pas l'os. Alors, quand vous êtes habitué à manger de la cuisine extraordinairement, enfin, vous ne pensez qu'à ça. Alors que si la cuisine, si la nourriture n'est pas extraordinaire au point de vue du goût, vous pouvez penser. Vous n'êtes pas absorbé dedans. Vous pouvez penser. Vous pouvez écouter la lecture. Mais c'est dosage. Quand la cuisine est trop bonne, on n'écoute plus la lecture. Tiens, est-ce que c'est bon? Oh, est-ce que c'est bon? Oh, la cuisinier merveille. Oh, étonnant. Mais on n'écoute plus la lecture. C'est très curieux de voir comment on est pris par les diverses opérations. Quand vous pensez avec une intensité énorme, vous négligez la nourriture. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de me nourrir. J'ai pensé. Mais la pensée, opération vitale. Puis j'analyse cette opération vitale. Je peux l'analyser. Qu'est-ce que c'est que cette opération vitale? C'est, je me nourris de beefsteak, de poisson, d'entrailles de poisson. Je me nourris de ça. Voyez. Donc vous précisez l'objet de la nourriture. Vous précisez l'objet de la pensée. Vous précisez la sensation, ce que vous voyez. Je vois le rouge de la fleur. Donc vous précisez l'objet. Puis vous essayez de trouver d'où ça vient. Ah, il y a nécessairement une source. Mais vous ne pouvez pas préciser plus. Tandis que vous précisez ce qu'est la dunamis lorsque vous avez découvert l'âme. Oui. Donc vous la découvrez, vous découvrez la dunamis de deux manières, par l'analyse immédiate de l'opération vitale, la source, et vous précisez que cette source est une source intermédiaire entre l'âme et l'opération à partir de l'âme. Mais c'est dans ce sens-là qu'il y a une étude nécessaire des opérations, des puissances, pour bien comprendre à quel niveau elles sont. Elles sont à la fois accidentelles et elles sont sources. C'est ça qui est très curieux. Elles sont sources, elles sont... Alors, elles sont spécifiques pour telle opération. Et telle opération peuvent être multiples par rapport à la finalité qui est une. Il y a une finalité de la vie végétative, de la vie biologique, la procréation. Et il y a diverses opérations vitales de la procréation. La nutrition, la croissance, la génération. Trois opérations finalisées de la même façon. Mais ayant donc trois facultés différentes. Oui, donc on voit la diversité des facultés en fonction des modalités d'opération. Tandis que les degrés de vie, c'est par rapport à la finalité.